يا ناس غاب حق والمولى شاهد والمولى شاهد ربي نوكلو ربي نوكلو ربي نوكلو يفصل كل خصام لو طالت العمر نكيهم بالواحد نكيهم بالواحد ونحيد البلا ونحيد البلا ونحيد البلا وش ديمو ظلام وإذا فنات عمري وإذا فنات عمري وإذا فنات عمري نتلاقوا غادا نتلاقوا غادا الحق والمقاس والميزان معا الحق والمقاس والميزان معا قاسو شرافي قاسو شرافي لعبو بقيمتو لعبو بقيمتو لعبو بقيمتو لمن يدري بيه اصلي شريف باين وماني وافي وماني وافي اسمين وضحو اسمين وضحو اسمين وضحو راني ما نخفي فارقت كل داعي فارقت كل داعي فارقت كل داعي وخديت عبادة وحكمت عبادة خلي اللي بغى شعل نار عضا خلي اللي بغى شعل نار عضا
شعلنا
نار عضا
شاوروا عليا faudra que ton angoisse pareil si se passe. Voilà l'intraveineuse, ta solution à cause. C'est ça la médecine, me faire la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme tous les mercredis matins, de 9h30 à 10h30. Bonjour Jean-Luc, bonjour André.
Bonjour.
Salut à tous, toutes.
Eh bien oui, aujourd'hui nous allons parler un peu juridique, avec le nommé décret OpsyWeb, qui est une transformation du décret du 23 mai 2018. Voilà, mais à vous la parole.
Décret dont on vous avait déjà assez longuement parlé au cours de diverses émissions. Décret qui vient d'être modifié le 6 mai donc 2019. Et pour résumer un peu les péripéties de toute cette histoire, nous allons vous lire un petit texte du Monde qui résume très bien la situation avant de donner la parole à André Piton pour qu'il développe les points qu'il juge les plus intéressants. Donc, je vous lis ce texte. Qui a pour titre « Radicalisation et psychiatrie », les données de deux fichiers pourront être consultées par les préfets. Alors, avec un petit chapeau, des psychiatres et des associations de patients y voient des, je cite, « amalgames entre maladies psychiques et terrorisme ». Donc, c'est daté du 7 mai. Les autorités de l'État, les préfets dans les départements et le préfet de police à Paris pourront être prévenus lorsqu'une personne fichée pour radicalisation terroriste est hospitalisée sans consentement pour des raisons psychiatriques, selon un décret du ministère des Solidarités et de la Santé publié mardi 7 mai de cette année au Journal officiel. Ce texte a, je cite, pour objet la prévention de la radicalisation. Il autorise le croisement de deux fichiers de données à caractère personnel, identité, date de naissance, etc. L'un, nommé OpsyWeb, concerne les personnes subissant des soins psychiatriques sans consentement, et l'autre est le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, en abrégé FSPRT. Le décret paru mardi en complète un premier publié le 23 mai 2018 qui autorisait le traitement et la consultation par les autorités des données de OpsyWeb. Ce premier décret avait été dénoncé par des psychiatres et des associations de patients qui y avaient vu des, je cite, « amalgames entre maladies psychiques et terrorisme ». Il fait l'objet de plusieurs recours devant le Conseil d'État pour demander son annulation. Selon le nouveau décret, les noms, prénoms et dates de naissance figurant dans OpsyWeb pourront être, je cite, « mis en relation avec les mêmes données d'identification enregistrées dans le FSPRT ». Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance des données comparées, le représentant de l'État dans le département où a lieu l'admission en soins psychiatriques sans consentement et les agents placés sous son autorité en sont informés, stipule le texte. Ce décret s'accompagne d'un avis de la CNIL, Commission nationale d'informatique et des libertés, organisme chargé de s'assurer du bon usage des données personnelles. L'autorité, je cite, souligne la différence profonde d'objet entre les deux fichiers en présence, l'un faisant état d'antécédents psychiatriques d'une certaine gravité, l'autre ayant la nature d'un fichier de renseignement. Par conséquent, la mise en relation des deux fichiers, je cite, « ne peut être envisagée qu'avec une vigilance particulière », prévient la CNIL, selon laquelle le dispositif pose question du point de vue du secret médical. Ça, pour poser question, ça pose question. Je continue. Le lien entre santé mentale, radicalisation, voire attentat est une question polémique. En août 2017, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, avait dit vouloir mobiliser les hôpitaux psychiatriques et les psychiatres, je cite, pour identifier les profils qui peuvent passer à l'acte. Il estimait qu'à peu près un tiers des personnes signalées pour radicalisation, je cite, présentent des troubles psychologiques. Nombre de psychiatres s'étaient élevés contre ces propos. L'Ordre des médecins avait rappelé, je cite, la nécessité absolue de préserver les principes fondamentaux de l'exercice professionnel, en particulier celui du secret médical. Fin de citation. Voilà ce petit texte qui présente le problème et les données de base de ce problème.
Nous rappelons à nos auditeurs que pour en parler, nous avons invité André Bitton du CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie.
Oui, je vous remercie de me donner la parole. Alors, je parle en qualité de président du CRPA, c'est-à-dire une association qui privilégie l'action juridique contre les textes et la systématisation du contentieux de l'internement psychiatrique à travers le déploiement des barreaux, des cabinets d'avocats qui assurent la défense des internés à travers la France. Et nous favorisons le fait que ces avocats fassent leur travail de façon pertinente en soulevant des moyens de droit et non en faisant potiche dans ses permanences. Alors là, le problème qui est posé est réel et sérieux. En réalité, par le décret du 23 mai 2018, OpsiWeb, par lequel l'ensemble des personnes qui sont hospitalisées sans leur consentement, toutes mesures confondues, y compris les soins sur demande d'un tiers, périliminant, mais aussi les mesures prises par les préfets, les mesures d'hospitalisation d'office, l'ensemble des personnes concernées par ces mesures sont fichées dans un fichier informatique à destination des agences régionales de santé qui elles-mêmes répercutent à diverses autorités l'ensemble des données les concernant, sauf l'intérieur même, le contenu même des certificats médicaux, ce qui de fait crée pour une durée de 3 ans un casier psychiatrique. Le décret du 23 mai 2018 crée un casier psychiatrique. Or, ce fichage informatique correspond à une volonté politique affirmée l'été 2017 de l'exécutif de dépister chez les personnes psychiatrisées les profils djihadistes. Ça, c'est un prétexte. En réalité, il s'agit bel et bien de dépister à travers ces croisements les profils dangereux en général et de suspecter la population psychiatrisée d'être en soi dangereuse. Ce qui nous ramène à une très vieille problématique, celle qu'on a connue au 19e siècle, les classes sociales dangereuses. La filière, quand on psychiatrise des personnes, c'est qu'on les envoie sur une filière d'exclusion sociale. Les personnes frappées d'exclusion sociale sont suspectées d'être dangereuses. Alors, le problème que cela pose, et c'est pour cela que ça a soulevé, le décret du 23 mai 2018 en soi a soulevé une bronca d'un certain nombre de syndicats psychiatres, mais également d'institutions. Le décret du 6 mai 2019, alors là, n'en parlons pas, c'est l'ensemble des organisations et des corporations psychiatriques qui vont debout et qui demandent une abrogation. Alors, demander une abrogation, ça ne veut strictement rien dire, puisque ces décrets sont d'ores et déjà d'application. Donc, en demander l'abrogation, ça ne veut rien dire. Et les corporations psychiatriques ont compris, avec le décret du 23 mai 2018, où le syndicat des psychiatres des hôpitaux majoritaires dans la profession, ancien syndicat unique, a décidé d'être requérant avec nous en déposant un recours distinct au Conseil d'État. Nous avons déposé un recours au Conseil d'État en annulation du décret du 23 mai 2018 au mois de juin 2018. Le SPH a engagé un recours, le syndicat des psychiatres des hôpitaux a engagé un recours au mois d'octobre 2018 suite à un recours gracieux au Premier ministre. Et finalement, on a appris que le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est pourvu en annulation du décret du 23 mai 2018, après avoir déposé un pourvoi conservatoire, Ce pourvoi a été développé, donc on est trois requérants. En annulation contre le décret du 23 mai 2018 créant un fichier informatisé des personnes en soins sans consentement, plus les organisations intervenantes volontaires.
Alors, donc, oui. Est-ce que tu peux donner des précisions juste par rapport à ce que tu viens de dire ? C'est-à-dire, oui. Ce premier décret du 23 mai 2018, les trois recours dont tu viens de parler, oui. Quels ont été leurs destins et que deviennent-ils alors que précisément ce fameux décret vient d'être modifié ?
Alors justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est placé, puisque nombre d'organismes ont décidé de se pourvoir en annulation au Conseil d'État contre le décret du 6 mai 2019 qui autorise, qui modifie le décret du 23 mai 2018 qui crée un fichier psychiatrique. Le décret du 6 mai 2019 autorise le croisement des données informatiques du fichier du 23 mai 2018, le fichier des personnes en soins sans consentement, avec le fichier S. Donc des terroristes. Or, il faut savoir que dans la mouvance libertaire qui nous intéresse là ici, puisqu'on est à Radio Libertaire, les radicalisés d'extrême gauche peuvent aussi être fichés S. Il est arrivé qu'un ancien haut fonctionnaire, Thomas Dietrich, qui siégeait à la Conférence nationale de santé et qui a fait un scandale il y a quelques années en dénonçant la prétendue démocratie sanitaire en démissionnant de ses fonctions, s'est enquis de la question de savoir s'il était fiché S et qui lui a été opposé des normes de sécurité publique pour l'empêcher d'accéder. Bien. Et on sait que durant l'état d'urgence, des écologistes ont pu être frappés des clauses de l'état d'urgence de 2015 à 2017 pour les empêcher de manifester. Donc on sait que ce genre de fichier, le fichier terroriste ou dit fichier S, en réalité concerne au-delà des profils djihadistes. Vous voyez ? Donc, somme toute, par rapport à ce décret du 6 mai 2019, où on a maintenant une bronca généralisée, je puis vous apprendre que non seulement le SPH, nous, on va être requérant, va déposer un recours en annulation complémentaire de notre précédent recours bientôt, le syndicat des psychiatres des hôpitaux va le déposer bientôt, le Conseil national de l'ordre des médecins a introduit un recours conservatoire en se réservant de le développer plus tard, pour bloquer le délai de recours de contentieux de 2 mois. La MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, a pris la décision de se pourvoir en annulation contre ce décret. L'Association des directeurs d'établissements en santé mentale se joint à la protestation, c'est-à-dire même les directeurs d'hôpitaux psychiatriques publics se joignent aux protestations. L'UNAFAM a décidé d'être requérante ou d'être intervenante volontaire dans un des pourvois, au soutien du pourvoi du SPH. La CNIL, on sait que la CNIL, qui s'est pourvue en intervention au vu de notre mémoire à la rentrée 2018, en soulevant ses réserves, a abondé une partie de nos arguments de droit, si bien que la CNIL est intervenante devant le Conseil d'État dans le cadre du premier décret, et que vu qu'on se réserve, nous, de soulever systématiquement en droit les réserves de la CNIL sur le nouveau décret, la CNIL va vraisemblablement intervenir volontairement. Donc on va se retrouver, c'est une très bonne chose, devant la globalité des intervenants institutionnels du champ psychiatrique qui vont se porter soit intervenant volontaire, soit requérant, ou soit en demande d'abrogation. Si bien qu'on a une bronca généralisée sur ce coup de force. C'est un coup de force de l'exécutif et du gouvernement contre les corps de métier de la psychiatrie.
Mais une petite question.
Oui, c'est peut-être pas très clair.
Si, c'est très très clair. On peut interpréter cette modification du premier décret, rendant possible le croisement des deux fichiers, comme une escalade de l'exécutif quelque part.
Tout à fait.
Alors, au niveau d'un point de vue qui serait en quelque sorte stratégique. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir, bon alors là on est dans on n'est pas dans la fiction, mais on est dans les hypothèses, qu'il y ait un rétrogradage suite aux nombreux recours dont tu viens de parler, déposés de plus en plus nombreux contre ce nouveau décret, et que qui consisterait en quelque sorte en une rétroaction, c'est-à-dire la réponse qui sera apportée, c'est bon, d'accord, ok, on renonce
ce croisement.
Au croisement des deux fichiers,
je n'y crois pas.
Pour revenir au contenu du premier décret.
Je n'y crois pas du tout.
Par rapport au psy, ouais.
Je n'y crois pas du tout. Et ce, pour les raisons qui ont trait à ce qui se passe en Europe de façon générale et ce qui se passe en France de façon plus précise depuis les attentats de novembre 2015. L'instauration d'un état d'urgence pour une durée de 2 ans, qui est un état d'exception, et le fait que la loi qui a juste précédé et finalement permis au plan politique la fin de l'état d'urgence le 1er novembre 2017, c'est la loi sécurité intérieure du 30 octobre 2017, qui place dans le droit commun les principaux effets de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis la prétendue levée de l'état d'urgence en France le 1er novembre 2017, nous sommes sous un état d'urgence permanent. Et en réalité, l'exécutif se disant, puisque c'est quoi l'exécutif Macron ? C'est la haute administration qui a pris le pouvoir, l'énarchie a pris le pouvoir, en indiquant « c'est nous le chaos ». Et donc ils ont, étant donné les élections présidentielles de mai 2017, ils ont un blanc-seing et une assurance vie, puisque quiconque sera face aux élections présidentielles ou au Rassemblement national aura une majorité d'office. Donc ils se disent, il suffit d'apparaître, nous, l'énarchie, d'une façon ou d'une autre, face au Rassemblement national, on a là une assurance vie. Donc, en se disant cela, eux, leur politique, c'est on a les coudées franches et on passe en force. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux décrets ? Un an, ils passent un décret qui est exécutoire le lendemain, qui aurait dû relever du débat législatif, et qui échappe au débat législatif, puisque un décret s'est pris par le gouvernement sans débat préalable, c'est juste visé par le Conseil d'État en légalité formelle et en préconstitutionnalité. Ça déclenche une bronca. Un an plus tard, ils déposent un autre décret qui, alors là, déclenche une bronca généralisée. Et ils disent « discutons-en » alors que les textes sont exécutoires. C'est-à-dire, on a là, pour de bon, un gouvernement qui, en quelque sorte, entre guillemets, légifère par décret, et dont on sait, le gouvernement Macron entend légiférer par ordonnance aussi. Autrement dit, demander, étant donné qu'ils ont une majorité absolue à l'Assemblée nationale, demander au Parlement l'autorisation de légiférer par ordonnance. Ils introduisent des ordonnances préparées par les services techniques de l'exécutif, des ministères. Ils les envoient au Parlement pour visa, une fois que c'est publié au JO. Ayant la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ils s'en fichent de ce qui se passe au Sénat, puisque le Sénat n'a pas voix définitive. Ces ordonnances ont valeur législative, et puis après, le débat parlementaire est coupé court. Et c'est quoi l'opposition au Parlement ? L'opposition au Parlement, il faut savoir que l'opposition la plus nourrie, c'est celle des Républicains. C'est les Républicains qui ont le groupe législatif le plus nourri au Sénat, dont ils tiennent la majorité, ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Alors certes, la gauche est complètement éclatée. La gauche est complètement éclatée et fait 27 députés entre France Insoumise et groupe communiste et 20, 25 ou 30 députés, 30 députés du groupe socialiste. Donc, se disant cela, eux, ils ont les coudées franches. Ils ont que les coudées franches, donc ils passent le texte en force. Et après, nous, on a eu le 17 mai dernier, à la journée de l'ADESME sur les droits des patients, où j'ai interpellé lors de cette journée Franck Bellivier, qui est le psychiatre neurobio, délégué par la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur la psychiatrie.
On rappelle que ADESME, c'est l'acronyme de l'association des...
L'ADESME, l'association des directeurs d'établissements en santé mentale. Autrement dit, c'est les directeurs des établissements publics de la psychiatrie française. Elle ne regroupe pas, par contre, les établissements privés qui sont conventionnés avec l'État, qui, eux, sont regroupés dans la FEAP, le patronat privé sanitaire et médico-social. Mais donc, ça veut dire que l'ensemble des hôpitaux psychiatriques publics sont, en quelque sorte, syndiqués dans l'ADESME, qui est un groupe de pression. C'est un groupe de pression, c'est un lobby, et les décisions et orientations qu'ils prennent sont extrêmement importantes. Alors, il faut savoir que les directeurs d'établissement sont des fonctionnaires désignés par le DG, le directeur général de l'ARS. Les agences régionales de santé sont le bras armé, avec une autonomie juridique, le bras armé du ministère de la Santé. Donc c'est le ministère de la Santé qui, indirectement par les directeurs généraux des ARS, les désigne. Donc ce sont des fonctionnaires. Ils sont formés à la Haute École de Santé Publique. Et donc, eux... Alors j'interpellais les représentants à cette journée de la DGOS, Madame Agnès Aimé, qui siège à la DGOS et qui s'occupe de ce secteur, qui est une chargée de mission, ancienne directrice d'établissement détaché, et le docteur, le professeur Franck Bellivier, qui est un psychiatre neuro d'école neurobiologiste. J'allais écouter, qu'en est-il ? Vous nous dites que le ministère mène une politique de réduction des soins sans consentement et vous passez deux décrets qui vont en sens inverse. Comment pouvez-vous avoir une telle affirmation, cette telle affirmation de dire que votre ministère mène une politique de soins sans consentement ? Les réponses ont été très embarrassées. Les réponses, c'est ce que contient les mémoires en défense du ministère de la Justice et ce que Agnès Buzyn a commencé à répondre. Non, pas du tout, c'est fiché, faut pas interpréter, c'est pas ça, ça ne préjuge rien. De toute façon, le croisement, c'est juste nom, prénom, etc. Et pour le reste, ce sera rapidement anonymisé. Non, mais c'est pas un problème, il s'agit juste de faire une balance entre des impératifs de sécurité publique et des impératifs de préservation des droits des patients. Alors, on s'aperçoit que dans leur réponse, les droits des patients sont une tarte à la crème, un pur et simple prétexte pour faire passer n'importe quoi. Et par ailleurs, dans la réponse de Franck Bellivier, bon psychiatre, celui-ci nous a dit « Non, mais par rapport au décret du 6 mai sur le croisement OpsiWeb, fiché S, non, mais il ne faut pas interpréter ce texte au-delà de ce qu'il veut dire et de l'état de fait. » Donc le docteur Franck Bellivier, psychiatre, nous dit de ne pas être paranoïaque. C'est très sympathique. Mais sauf qu'on est placé dans une situation où tout le monde le devient. La preuve, les acteurs institutionnels du terrain se mettent à recourir, alors que pendant des décennies, nous autres, on a été stigmatisés comme des paranoïaques requérants, quérulants, qui introduisaient des procédures au prorata de leur maladie mentale. C'est vraiment assez cocasse. Puisqu'on en est à ce que maintenant les protagonistes, les principaux institutionnels du terrain, dont l'UNAFAM, vont être requérants au Conseil d'État, ou sont requérants au Conseil d'État. Je vous signale que, en intervention au soutien devant le Conseil d'État du mémoire du syndicat des psychiatres des hôpitaux, principal syndicat de la fonction publique hospitalière, sur le décret du 23 mai 2018, sur le fichier des soins sans consentement, sont intervenants volontaires au soutien de ce recours en annulation du décret du 23 mai, l'Association des secteurs médico-psychiatriques des prisons, l'UNAFAM, l'Union syndicale de la psychiatrie, politiquement gauche, extrême gauche, et au soutien de notre propre recours en annulation, c'est l'Association Avocats droit et psychiatrie fondée par Maître Vaillant qui est intervenante. Et en intervention générale, casant ces arguments, la CNIL qui renforce certains arguments et laisse à entendre qu'on ne peut pas laisser de pareils décrets.
Et qu'est-ce que vous pensez que, comme fruit, que ça va porter en fait ?
Non, mais l'expérience que j'ai en suivant l'actualité de l'état d'urgence de 2015 à 2017 et des multiples recours que l'avocat de la Ligue des droits de l'homme avait, et des autres organisations avaient déposé, Maître Franck Spinozzi, ainsi que les recours constitutionnalistes en QPC qui avaient été déposés contre la loi sécurité intérieure, qui avait, je ne sais pas s'il avait été frappé d'un recours au Conseil constitutionnel, me fait dire que on ne pourra avoir, et c'est pour ça que le gouvernement a les coups des franches, on ne pourra avoir devant le Conseil d'État. D'abord, qu'est-ce que le Conseil d'État ? Comment c'est formé ? Ce sont des conseillers d'État. D'où viennent les gens qui peuplent les conseillers ministériels, qui sont les conseillers des ministres et qui sont les conseillers de l'Élysée, et qui est Emmanuel Macron ? C'est un énarque. Les énarques les mieux placés en second deviennent conseillers d'État. Les conseillers d'État sont et à la fois des juges de cassation administratif, des juges de la légalité des textes, et ceux qui conseillent l'État et font les textes normatifs de l'État. Donc c'est l'État qui se juge lui-même. Donc moi je ne préjuge pas que les conseillers d'État ne fassent pas leur travail. Je pense que moyennant des arguments juridiques pertinents et des arguments internationaux, des arguments de droit d'une part et de fond d'autre part, ils fassent droit à un certain nombre de nos moyens. Mais je ne me fais aucune illusion. Sur la jurisprudence de l'état d'urgence, l'état d'urgence a été massivement conforté et un certain nombre d'annulations ou de suspensions ont pu avoir cours, mais cela sans plus. Alors il y a des choses qui ont eu cours. Par exemple, la quadrature du net a pu obtenir un certain nombre de choses assez intéressantes sur la régulation de l'Internet. Maître Franck Spinozzi a pu obtenir pour compte de la Ligue des droits de l'homme des jurisprudences relativement intéressantes, mais ça passera. Tout ça, ça passera. Alors moi, je ne me fais pas d'illusions. Simplement, ce qui est une bonne chose, c'est que les corporations institutionnelles psychiatriques se mettent à réaliser qu'ils ne peuvent plus. C'est le SPH qui l'a réalisé. Et je leur en sais gré, Pourtant, le SPH, c'est l'ancien syndicat unique des psychiatres des hôpitaux. Mais je leur sais gré d'avoir pris conscience qu'ils ne peuvent plus nous laisser seuls, nous, petite association sans moyens, extrêmement brocardée et attaquée seule des textes réglementaires qu'on attaquait seule. On n'a plus à... Les gens doivent prendre conscience que dans ce pays, les professionnels du terrain psychiatrique sont entraînés, malgré eux, contre eux, sans concertation, vers le fait d'être des espèces de barbouzes dans des unités psychiatriques qui sont de plus en plus concentrationnaires, répressives, avec une optique des patients qui dépasse les bornes.
Tu évoquais, juste avant, enfin c'était pas une discussion, des éléments de discussion avec Agnès Buzyn.
Oui.
Et est-ce que la première question à lui poser ne serait pas, mais qu'est donc l'objectif affiché de ces décrets ? Vous dites que c'est la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques arguments pour étayer votre affirmation ? Parce que je pense que elle serait, et ses collaborateurs, quand même assez en peine de pouvoir justifier quelque chose qui est complètement aberrant. Et si on est gentil... Qui relève beaucoup plus du domaine de l'imaginaire que de la réalité. On avait lu dans une émission précédente un entretien fait avec Marc Bétrémieux, qui est le président du syndicat dont tu viens de citer, et il rappelait une vérité, quelque chose qui pour nous est une vérité basique, première, qu'on avait déjà, enfin on n'avait pas attendu Marc Bétrémieux pour la formuler, et qui disait, donc je cite ce propos de Marc Bétrémieux, voilà, l'ensemble des travaux qui ont été faits sur la radicalisation ne montrent pas cette corrélation, ils montrent que ce sont des personnes qui ont des parcours particuliers, mais ce ne sont pas du tout des malades mentaux.
Alors ça, c'est une vraie question. C'est l'éternel débat entre la confusion qui est trop facile à faire entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique, d'une part. Et d'autre part, c'est l'éternel débat entre la question de savoir si une radicalisation, comment dire, barbare, avec bestialité à la clé, ce qui était le cas d'Abdelkader Merah, relève de la maladie mentale, ou relève de la répression pure et simple. Voilà. Alors d'abord, moi je pense que l'intégrisme musulman, et je prends le cas de l'écrivain algérien Kamel Daoud, qui était en 88, qui a participé aux manifestations émeutières en Algérie, qui ont amené le Front intégriste de salut pratiquement au pouvoir, jusqu'à ce qu'il y ait interruption du processus législatif électoral en 91, ce qui a déclenché la guerre civile algérienne qui a duré jusqu'en 2012. Kamel Daoud a changé d'option, il était en Algérie, il est devenu, à la faveur de sa découverte d'une bibliothèque, qu'il a dévoré, où il a appris le français, puisque l'enseignement était arabisé en Algérie depuis Boumédienne. Il a découvert la culture, des auteurs, et finalement il a changé de bord, il est devenu virulemment anti-intégriste par son accès à une bibliothèque, à une culture générale qui l'humanise, lui fasse découvrir les humanités, la culture, l'intellect et la puissance des mots. Donc je pense qu'il y a une différence entre des gens qui optent pour ce genre d'option, l'intégrisme musulman, ce qui est une option politique, qui doit être combattue et qu'il faut combattre, et la question de savoir si des profils mixtes ayant trait notamment à la mauvaise vie, à l'exclusion, à la consommation stupéfiante, au trafic dans les cités, ne sont pas en place, qui devraient être traités de façon suffisamment complète et suffisamment tôt pour que dès l'adolescence, un certain nombre d'adolescents et de jeunes qui vont dans ce sens puissent être tout de même sauvés. La question de savoir si l'on peut sauver des gens qui prennent ce genre de parcours dès les 13-14 ans est une vraie question dans les quartiers difficiles. Et la question des profils mixtes notamment liées aux stupéfiants, à la mauvaise vie et à la marginalité, l'exclusion qui frappe très tôt dans les milieux issus des migrants ou lointainement issus des migrations, c'est une vraie question. Donc on ne peut pas tout à fait ignorer le parallèle. Mais néanmoins, la confusion des genres pose problème. Et c'est l'éternelle confusion entre dangerosité criminologique et dangerosité psychiatrique. La dangerosité psychiatrique, c'est quoi ? C'est une personne qui, sous l'emprise d'un trouble mental, en perdant conscience dans son rapport au réel de ce qu'il fait, va dicter par une force extérieure qui le tient sous emprise tel acte dans le cadre d'un délire. Mais c'est très précis quand même. La dangerosité criminologique, c'est autre chose. Maintenant, quand des passages à l'acte ou des volontés de passage aux actes sont appuyées sur des propagandes extrémistes qu'il faut combattre, c'est une question politique.
Oui, enfin, il est quand même, je veux dire, très, très important de rappeler qu'il s'agit il s'agit pas de confondre les deux registres. Et donc.
Oui, c'est ça. Le problème que posent ces deux décrets, quand on les met ensemble. Parce que, si vous voulez, quand on prend le décret du 23 mai 2018, qu'est-ce qu'on voit sur les destinataires du fichage informatique ? On voit que sont envoyés aux ARS pour diffusion à différentes autorités, pour l'exercice de leur attribution. Et qui va surveiller cela ? Alors, les ARS, les données sont envoyées aux ARS pour dispatching, aux représentants de l'État dans le département, c'est-à-dire au préfet, Paris, préfet de police, juge des libertés de la détention, fonctionnaire du greffe du tribunal de grande instance chargé des procédures de contrôle des soins sans consentement, procureur de la République près de TGI dans le ressort de l'établissement, procureur de la République sur le ressort du domicile, premier président cour d'appel, procureur général près de la cour d'appel, fonctionnaire du greffe de la cour d'appel, directeur de l'établissement d'accueil, directeur de l'établissement pénitentiaire. Et là, vous allez voir, il y a autre chose. L'avocat de la personne, les personnes qui passent au contrôle judiciaire ont des avocats commis d'office ou choisis. Les données personnelles, enfin professionnelles de l'avocat sont fichées. Alors, il y a un fichage des avocats en plus, ce qui ouvre la porte de ficher les avocats qui soulèvent des moyens et ceux qui n'en font rien. Les membres de la commission départementale des soins sans consentement et le maire, et à Paris, le commissaire de police. Mais qui va contrôler que ces informations... Bon, écoutez, dans une commune de banlieue, vous avez une jeune fille ou un jeune homme qui, à l'âge de 18-20 ans, une fois majeur, fait une consommation excessive de boissons alcoolisées, il rajoute 3-4 pétards et une ecstasy, s'envoie en l'air dans une boîte de nuit, on le retrouve la personne dans un état complètement délirant sur la place publique. On la ramasse en procédure d'urgence et on l'envoie en soins périliminants pour une désintox, et puis pendant 15 jours, 3 semaines, bon, puis après elle sort avec un programme de soins et consultation obligatoire, bon, puis après, alors la personne prend la décision d'arrêter la case, de normaliser son comportement et de revenir à une plus ample sociabilité et se décide à bon, reprendre son cursus et chercher du travail et demander un logement social. Et à la mairie, on va savoir qu'elle a des antécédents psychiatriques. Enfin, je vous laisse imaginer comment, alors que bon... le mode de vie des jeunes à l'heure actuelle, ben voilà, sur les jeunes générations, on sait. Comment peut-il y avoir un retour à la norme et une sortie de la stigmatisation avec cela ? Alors, c'est ce qu'opposait le 17 mai M. Alain Monnier, quand, au renfort des interrogations que je posais à la journée de la DESM, à la représentante du ministère de la Santé et au professeur Franck Bellivier, le délégué de la ministre, le psychiatre délégué de la ministre. Monsieur Alain Monnier, qui est membre du conseil d'administration de l'UNAFAM et qui est parent d'un jeune homme qui fait une consommation abusive de cannabis, s'exclame « Mais comment voulez-vous que les familles fassent confiance ? On va envoyer notre parent atteint de troubles mentaux dans un établissement sachant qu'il va être suspecté de terrorisme. Où est la confiance ? Comment voulez-vous qu'on... » Et même, mieux même, à l'heure actuelle, pour les soins d'usagers, qui préconise une compliance aux soins, d'utiliser du soin libre. Mais comment les gens qui se font suivre en psychiatrie sachant cela peuvent conserver une confiance quelconque dans un dispositif de psychiatrie publique qui est aussi policiaro-militaire ? Parce qu'on se dit, mais c'est quoi ce truc ? Puisque derrière cela, vous avez la question d'un espèce d'état policier en place et d'un espèce d'état policiero-militaire. Parce que moi, j'ai vu dans la résidence HLM où je suis durant l'état d'urgence, quatre bérets verts ratissés avec un fusil d'assaut prêt à tirer la résidence HLM où j'habite durant l'état d'urgence en 2017.
On n'a pas attendu, en ce qui nous concerne, qu'on arrive à de tels excès dans certains amalgames pour dénoncer la dimension policiaro-militaire éminemment donc répressive de la psychiatrie. À mon avis, cette dimension n'apparaît pas précisément dans ce contexte-là. Elle préexistait, elle s'aggrave.
Elle apparaît clairement.
Oui.
Elle apparaît clairement. Elle apparaît clairement et elle prend un caractère parfaitement officiel. C'est-à-dire que ce qui apparaît de façon parfaitement officielle, je pense, peut-être est-ce un bien, hein, peut-être qu'on peut considérer que ces deux décrets, finalement, c'est un bien, puisque ça clarifie la situation et que ça force tous les acteurs à être clairs. C'est la fin d'une hypocrisie, somme toute. Oui, le système psychiatrique est répressif. Oui, le système psychiatrique est en France le principal système répressif. Devant même le mode carcéral ou même les peines alternatives, pour une raison simple, c'est qu'énormément de gens sont sous contrainte aux soins psychiatriques avec intériorisation de la contrainte. Les gens ont intériorisé le fait qu'ils doivent prendre des médicaments qui déshumanisent ou bien ils sont réembarqués. Bien. Alors ça fait que ce fichu système psychiatrique, je considère, je ne suis pas le seul, qu'il est de fait, pas officiellement, mais de fait, le principal système répressif en France. Au moins, ça a le bénéfice de la clarté. Alors maintenant, le bénéfice de la clarté pour des gens qui, eux, ont une due atteinte, comme moi j'ai pu l'être, et qui cherchent les soins dans un contexte pareil, mais comment va-t-on faire ? Comment peut-on, comment va-t-on faire ? Enfin, vraiment, pour ceux qui soit à un moment donné de leur parcours sont cassés, tombent dans leur lit pendant 3-4 ans complètement dépressifs, ou partent parce que la vie a fait que dans des vrilles psychotiques telles que, en se disant « mais j'en peux plus, moi, de cette maladie, j'en peux plus, de cela, j'essaye d'en sortir, à qui je vais m'adresser ?» Et pour autant qu'on n'ait pas de quoi s'adresser au système psychiatrique privé, qui lui est florissant, parce que les cliniques psychiatriques privées, il y en a. Je veux dire, si on veut payer les cliniques Cléry-Melun, il y en a. Et encore, il faut voir comme.
Alors, donc, il faut voir aussi à l'intérieur quelle est la façon dont est pratiquée la psychiatrie.
Mais justement, c'est ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'on a pu voir, on a pu constater que les équipes psychiatriques qui s'efforcent de faire correctement leur travail sont parfaitement minoritaires, qu'il en dépend de telle ou telle personne sur laquelle on peut tomber, et que de nos jours, moi c'est ce que j'ai développé, notamment auprès de Pauline Renter à Marseille, qui s'efforce de co-animer le lieu de répit à Marseille, qui est très important, une époque comme la nôtre est très importante pour développer des alternatives. Des alternatives, c'est-à-dire en dehors du cadre institutionnel, en montant quelques dossiers de demande de subvention sur les fonds Novation des ARS et en impulsant telle alternative à moindre coût en dehors des circuits institutionnels. Parce que de nos jours, il n'y a plus que ça à faire. Si des gens sont mal autour de vous, il vaut mieux qu'ils sachent, qu'il vaut mieux se débrouiller dans les réseaux d'entraide, avoir peu contact avec le circuit institutionnel et s'efforcer de faire jouer des modalités alternatives. Il est de nos jours, je le dis carrément, sur nombre de secteurs, il est devenu dangereux de se faire suivre dans la psychiatrie publique. C'est cela le problème. Ça pose problème et c'est un problème de sécurité publique, de santé publique. Si une population fragile, surtout à une époque d'explosion de la consommation des stupéfiants et d'explosion de l'exclusion sociale, si une population fragile en vient à se dire « je peux me permettre de me faire suivre en psychiatrie publique parce que c'est dangereux, parce que je suis en danger », ça pose problème.
Oui, alors, ce décret du 23 mai 18, finalement, c'est une manière de rendre officiel un casier psychiatrique qui était auparavant officieux.
Tout à fait.
Et à ce niveau-là, c'est un peu... au-delà de l'atteinte au secret médical, c'est un peu l'image de la psychiatrie qui est atteinte.
Ça, c'est comme d'habitude. Moi, je pense qu'il y a là, dans ces décrets successifs, la systématisation mais hyperbolique de ce que voulait faire Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy, au fond, dans son projet de loi de réforme de la Chaux de 2006-2007 qu'il avait retiré, avant son élection, parce que, d'une part, il y avait une invalidation par le Conseil constitutionnel d'un amendement cavalier qu'il avait introduit, et d'autre part, parce que la bronca des institutionnels avait fait qu'après adoption des articles 18 à 24 en 2006-2007 de la loi prévention de la délinquance, il avait retiré ces articles en disant, bien qu'ils avaient été adoptés, en disant au titre de promesse électorale, je réformerai l'hospitalisation psychiatrique si je suis président de la République. C'est ce qu'il avait fait avec le projet de loi Bachelot, qui a été quand même heureusement amendé par des décisions QPC du Conseil constitutionnel. Donc je pense que c'est la même lignée, mais en hyperbolique. À savoir que, de toute façon, c'est en phase avec le fait que, de nos jours, les pays occidentaux passent les uns après les autres sous une espèce de dictature. Trump aux USA, l'Italie maintenant sous mainmise de l'extrême droite, la Grèce qui, péniblement, tient comme ça par rapport à l'Europe, mais qui, elle, bon, voilà, qui avec une forte montée des néo-nazis quand même. La Hongrie, bien, le Front National premier, enfin, le Rassemblement National, premier parti politique de France, d'après 2017. Donc il y a une vague bleue, une vague fasciste qui frappe l'Occident. Et par rapport à cette vague, au plan sécurité intérieure, je pense, moi, sincèrement, que la haute administration entend bel et bien court-circuiter cette vague fasciste en imposant un régime despotique bien de plus en plus dictatorial, en laissant deux grands garde-fous. Premier garde-fou, l'Internet. Deuxième garde-fou, les hautes cours de justice, si bien que le contentieux devient obligatoire. Et enfin, le troisième garde-fou, c'est évidemment la distribution de minima sociaux et le fait de colmater tout cela en distribuant un peu d'argent, de sorte que les gens puissent vivre comme cela, mais sous une surveillance très étroite. Enfin, moi, je sais que depuis que Macron est passé au pouvoir, là où j'habite, pour des raisons de politique ayant trait au 17e arrondissement, la pression sécuritaire s'est accrue. Et que singulièrement, depuis l'année dernière, où le nouveau maire du 17e, qui entend reconquérir du terrain, accentue la pression au niveau sécuritaire.
Comme un baiser sous la torture, comme un poète et sa rature. Civiliser cette écriture, vagues idées et de l'allure, bien arrondie sous la censure, le lieu commun qui vous rassure. cicatriser cette blessure. Les triomphants, les désignés, juste un décor bien maîtrisé, pas vraiment très élégant, pas vraiment très élégant. Noces de sang pour ceux de l'ombre qui ont des dents, qui ont des ongles. Noces de sang pour ceux de l'ombre qui ne font pas partie du nombre, qui ne font pas partie du nombre. Noce de sang pour les maudits, sans châtiment pour les nantis.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération Anarchiste, c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. On vient d'entendre Bernard Lavilliers, Noce de sang. Et nous parlons du décret au PsyWeb.
Mais on va peut-être élargir le champ et puis évoquer d'autres... D'autres points, par exemple d'autres questions, celles concernant l'histoire de curatelle et tutelle, peut-être. Et puis, l'histoire de personne de confiance.
Je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant à aborder, parce qu'il y a eu une réponse le 17 mai dernier de Franck Bellivier, le psychiatre neurobio délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie par Agnès Buzyn, qui est l'effectivité des droits des patients en soins sans consentement. Je l'ai interpellé de la salle à un moment donné, avant de l'interpeller, ainsi que sa collègue de la DGOS, Madame Aimé, sur les décrets PsyWeb et décrets du croisement fichier S, sur l'effectivité des droits des patients. J'ai dit, écoutez, des préconisations récurrentes du contrôle général des lieux de privation de liberté que nous avons renforcées, consistant à dire qu'il faut des points d'accès aux droits, des guichets d'accès aux droits dédiés dans les établissements psychiatriques, accessibles aux patients, avec dedans des juristes indépendants. Or, il n'existe en France que deux guichets d'accès aux droits, de permanence d'accès aux droits tenue par des avocats au barreau en indépendance. C'est à Lille, à l'EPSM Lille Métropole et à l'EPSM Lille Saint-Andrés. Bien, autrement, il y en a un Aubryonnais à Marseille que s'efforce de dynamiser Madame Pauline Renter, qui est élève avocate. Et à Paris, il y a droit d'urgence dans lequel les permanences assurées par les avocats au barreau de Paris sont totalement neutralisées par une convention de droit public entre le barreau de Paris et les responsables de cette permanence juridique et l'hôpital Sainte-Anne, de sorte que l'accès à ces avocats soit complètement sous médiation d'une assistante sociale de Sainte-Anne, chargée de neutraliser les demandes et de droit, et de sorte à ce qu'il n'y ait aucune orientation pertinente au plan juridique sur les soins sans consentement. Donc, en fait, qu'en est-il de du fait qu'il faudrait que soient généralisés dans le pays des points, des guichets d'accès aux droits tenus par des juristes en indépendance, et de sorte que les patients soient effectivement et loyalement informés sur leurs droits et voies de recours dans les situations psychiatriques courantes et dans les soins sans consentement. Alors, Franck Bellivier a été clair, et moi j'avais déjà eu un écho de la chef du bureau santé mentale dans une concertation précédente, je crois que c'était en 2016 ou 2017, à savoir que eux voyaient cela non pas avec des juristes indépendants, mais bel et bien avec des médiateurs de santé pairs, c'est-à-dire des patients anciens patients qui sont des agents hospitaliers et qui sont recrutés pour en quelque sorte faciliter les prises en charge entre les patients et les équipes, ou des personnes de confiance institutionnelles travaillant pour l'hôpital, telles que la FNAPSI l'avait vu en 2014, conjointement avec deux établissements. Et là, ça fait rigoler quand on voit cela. On s'aperçoit que, comme d'habitude, depuis 1996, depuis que les droits des patients ont été lancés, depuis la loi Kouchner 2002, les protagonistes institutionnels du terrain psychiatrique veulent bien des droits des patients, mais à condition que ce soit fictif, qu'il y ait bon juste sur le papier, deux, trois petits arrangements, et que celles et ceux qui sont chargés de délivrer cette information le fassent de façon à ce que ça n'ait pas de pertinence. Or, nous, c'est notre habituelle critique que l'on porte à tout cela, savoir qu'en réalité, ils ne veulent pas d'une effectivité de cette information et d'une effectivité des droits des patients en psychiatrie, qui doivent être infantilisés de façon aussi systématique que possible. Et d'autre part, là-dessus, il y a la remarque d'André Ferrain, le secrétaire général du contrôle général des lieux de privation de liberté, qui dit très ironiquement, reprenant d'ailleurs une critique que moi j'avais formulée, qui est évidente, là-dessus, on se recoupe les uns les autres, qui est la suivante: pourquoi voulez-vous que des personnels des établissements psychiatriques en charge de délivrer cette information sur les droits et voies de recours aux personnes hospitalisées sans leur consentement, alors qu'ils sont persuadés faire le bien des patients, malgré eux, pourquoi voulez-vous qu'ils délivrent une information loyale sur les droits et voies de recours aux patients en soins sans consentement, qui pourrait servir à ces patients en soins sans consentement pour contester les mesures qui sont là, mises en place pour leur bien? Donc c'est l'éternel problème que moi j'avais soulevé à la fin de notre audition en 2015 par le comité de prévention de la torture, où j'avais sollicité l'inspection de l'UMD d'Albi, qui avait été obtenue d'ailleurs, et où, sortir à la fin de notre audition, j'avais fait marrer tout le monde, alors que l'état d'urgence venait d'être instauré en France. On était le 15 novembre 2015, l'état d'urgence venait d'être instauré le 14, en disant à la juriste britannique qui était là, qui coordonnait cette mission du comité de prévention de la torture: quelle est la pire des choses qui puisse vous arriver en France? Ben, qu'on vous veuille du bien. Parce que quand on veut du bien à la sauce psychiatrique, vous êtes carrément passé à la moulinette.
Vous êtes mal barré.
Absolument. Et donc on a là... Moi je trouve que c'est tellement criant, c'est d'une telle hypocrisie, que je pense que cela valide, d'une, les critiques que nous faisons, et ce que dit le docteur Mathieu Bellassène, qui est ancien leader du collectif de 39 et qui se trouve nous soutient parce qu'il a pris ses distances par rapport à tout cela, et qui dit que le discours institutionnel sur les droits des patients, la déstigmatisation, l'inclusion, etc., c'est un baratin, c'est un sombre baratin qui en quelque sorte bluffe, c'est un bluff pour faire passer ces réalités sordides. D'autre part, puisque tu voulais qu'on aborde la question des tutelles parentales...
Oui, vas-y.
Oui.
Encore un petit peu de temps.
Voilà, donc s'il y a moyen de dire une chose, la Convention internationale des droits des personnes handicapées et des préconisations du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, mais aussi de l'Union européenne, préconise en France l'abolition des tutelles. Des tutelles complètes, c'est préconisé, ça fait de nombreuses années. La France ne s'y range pas du tout, pas du tout. Alors moi, je trouve qu'il y a un processus problématique qui se met en place à l'heure actuelle et qui, à mon avis, devrait être discuté et doit prêter lieu à une contestation. C'est avec la dernière réforme justice, comment concentre les anciens tribunaux d'instance, les juridictions d'instance, juges des tutelles, les concentre dans un pôle des tribunaux de grande instance. Et sur Paris, l'ensemble est regroupé au nouveau tribunal de Paris. Et d'ici quelques années, on fusionnera les tribunaux d'instance, tribunaux des tutelles, dans un pôle spécialisé des TGI. Or, la perspective avec le contrôle judiciaire des hospitalisations sans consentement, c'est qu'on aille d'ici quelques années vers la création d'un pôle majeur vulnérable qui mette ensemble les contrôles JLD, des hospitalisations sans consentement et la juridiction des tutelles dans une seule et même chambre spécialisée sur les majeurs vulnérables. Alors, étant donné que la loi de 2013 a mis la représentation par avocat obligatoire dans les contrôles des hospitalisations sans consentement, on est devant un processus d'amalgame entre l'internement psychiatrique et la protection, les mesures de protection, tutelle, curatelle, et on est dans un processus où l'institution judiciaire va d'ores et déjà infantiliser la population psychiatrisée et en quelque sorte coupe la parole aux psychiatrisés eux-mêmes. Et là, il y a un véritable problème. Mais bon, au moins l'avantage, c'est que la loi de septembre 2013 qui a institué une représentation obligatoire par avocat dans les contrôles de plein droit des hospitalisations sans consentement mobilise les barreaux et que là où il y avait un désert au niveau des avocats compétents sur le contentieux de l'internement psychiatrique, maintenant c'est plus le cas. Mais avec un effet pervers, c'est que la parole des psychiatrisés en désaccord disparaît quand même. Et là, il y a un véritable problème. Mais ce sera l'objet de conflits politiques et juridiques éventuels des prochaines années. Il y a là des perspectives qui sont très problématiques. D'autre part, la France, quoi qu'il en soit, dans sa nouvelle législation sur la loi de modernisation de la justice, n'a pas pris de dispositions adéquates et pertinentes sur les abus tutélaires. La France n'a pas pris de mesures qui permettent de limiter ces abus qui sont considérables. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage.
Bon, je pense qu'on va finir l'émission sur ces propos en te remerciant d'être venu à ce micro.
Eh bien, ainsi se termine notre émission. Merci André de ta venue. Et nous vous disons au revoir.
Au revoir à vous, à bientôt.
Et nous laissons la place à un rayon de soleil. Beating on my trumpet.